Bonjour et bienvenue dans le Labomatique, votre émission dédiée à la recherche scientifique rennaise sur Radio Campus Rennes 88.4. Implantée sur AgroCampus Ouest et le campus de Beaulieu, l'unité mixte de recherche INRA AgroCampus Ouest, écologie et santé des écosystèmes, s'intéresse à l'écologie et l'écotoxicologie aquatique et l'écologie des invasions biologiques. Les recherches contribuent à l'élaboration d'indicateurs et d'outils pour l'évaluation des risques et l'élaboration de stratégies de gestion. C'est au sein de cette UMR et de l'équipe de recherche écologie et préservation des espèces et habitats aquatiques que notre invité de cette semaine, Guillaume Ball, a effectué sa thèse, soutenue le 31 mai dernier. Il nous explique en quoi a consisté son travail de recherche et dans un premier temps, je lui ai demandé de nous expliquer comment s'organiser un doctorat à la fois rattaché à l'UMR INRA AgroCampus et l'école doctorale Vie Agro Santé.
C'est organisé de façon différente. On a d'une part en fait un laboratoire d'accueil, donc moi qui étais au sein de l'AgroCampus Ouest et dans une équipe en fait qui travaillait sur l'écologie des habitats aquatiques. Et de l'autre côté, en fait, on a une structure commune pour tous ceux qui font un peu des doctorats ou des études de ce type-là, qui est l'école doctorale Vie Agro Santé, qui organise un suivi un peu de tout ce qui se passe au niveau de la thèse, et puis qui valide après un diplôme, donc là en collaboration avec l'Université de Rennes.
Et donc vous avez donc effectué vos recherches avec un modèle donc biologique bien spécifique qui est le saumon d'Atlantique. Alors est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps nous expliquer pourquoi avoir choisi cette espèce et puis justement quel est le est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le cycle vital particulier de cette espèce?
Oui, donc je vais commencer peut-être par le cycle vital. En fait, le saumon atlantique, c'est un poisson un peu emblématique qui fait encore rêver aujourd'hui, qui va se reproduire en rivière, qui va passer en France à 2 ans en rivière, puis qui va partir en mer jusqu'aux îles Féroé, où il va passer une à deux années en mer pour grandir et puis revenir se reproduire sur sa rivière d'origine. Alors pourquoi s'intéresser à cette espèce en particulier? Tout d'abord parce que le saumon, c'est une espèce donc, qui couvre deux milieux, les milieux aquatiques d'eau douce, continentaux et marins. Donc c'est un intégrateur un peu de ce qui se passe sur de larges échelles. C'est une espèce d'un autre côté qui est très sensible aux perturbations de son environnement. Donc en regardant un petit peu ce qui peut lui arriver, ça nous permet d'intégrer ce qui se passe pour d'autres espèces de poissons et puis peut-être poursuivre des études par la suite. Et enfin, c'est une espèce aussi qui est exploitée. Donc surtout par de la pêche amateur aujourd'hui en France et donc qui constitue quand même des enjeux économiques qui sont non négligeables.
Et alors quel a été vous votre sujet de thèse bien spécifique?
Alors moi mon sujet de thèse c'est de voir un petit peu les évolutions des populations de saumon donc sur les 20 dernières années et voir s'il y a un lien en fait avec les changements climatiques pour faire ensuite de la prédiction de ce qui pourrait arriver sous différents scénarios climatiques et puis du coup gérer, adapter les prélèvements, ce genre de choses.
Et alors, comment s'est déroulé votre doctorat, en fait, tout au long de ces années? Quelles ont été vos étapes de travail?
Il y a eu trois étapes différentes. Un des premiers problèmes en fait qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des scénarios en fait d'évolution climatique pour tout ce qui est température de l'air, précipitation, sur des échelles assez larges et puis avec des downscaling à des échelles très locales. Mais on n'a pas de modèles qui nous permettent en fait d'estimer ce que va devenir les cours d'eau. Enfin, pas de modèles qui sont établis en routine par des gros groupes de recherche. Donc moi, j'avais une première partie de ma thèse qui était de voir un petit peu quelle pourrait être l'évolution des conditions thermiques en rivière, pour voir ensuite par la suite ce que ça pouvait donner sur les populations juvéniles de saumon, qui sont en fait sensibles aux modifications thermiques du milieu, parce que c'est un poisson qui aime plutôt l'eau douce, froide, et nous en plus on est en limite sud de l'aire de répartition, donc on pensait que tout changement, même relativement faible de la température du cours d'eau, pouvait avoir des impacts assez forts. Donc il nous fallait dans un premier temps voir ce que pourrait devenir la température des cours d'eau dans l'avenir. Après, donc le deuxième point de recherche, c'était justement de voir les impacts de cette température de l'eau et de ces variations sur la croissance des saumons, parce qu'en fait, la croissance est très importante pour eux, puisque suivant en fait la qualité du milieu, ils vont avoir tendance à partir plus ou moins tôt en mer, ce qui a des impacts ensuite sur la dynamique de population globale. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que pour des populations en fait de Normandie, donc qui sont quand même relativement au sud de l'aire de répartition de l'espèce, des modifications du régime thermique des cours d'eau, ça n'allait pas avoir de gros impacts sur la croissance comparé à d'autres problèmes comme les fluctuations de densité. Et donc le troisième point, c'était là à l'échelle française, donc en utilisant des données qu'on avait sur un observatoire de recherche en environnement INRA et puis la base nationale de déclaration de capture ligne, de voir un peu quelles sont les modifications de croissance en mer des individus, essayer de trouver en fait le facteur marin à l'origine de ces variations et puis pouvoir faire de la projection. Alors aujourd'hui, on a vu en fait qu'il y avait enfin des conditions marines de croissance qui se dégradent. On peut penser que la survie du coup a baissé. On a des individus qui reviennent de plus en plus petits, de plus en plus tard aussi dans la saison. Et on n'a pas réussi encore à trouver quel était le facteur marin vraiment prédominant là-dedans. Ce qu'on sait, c'est que l'origine est apparemment marine. Il nous reste en fait ce point à éclaircir par la suite.
D'accord. Et donc, ça, c'est un travail ensuite qui va être continué. Donc, par exemple, en thèse également, peut-être que quelqu'un va reprendre la suite.
Oui, bah alors moi j'avais un travail qui était en fait assez exploratoire puisque saumon et changement climatique c'était vraiment la première phase. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore sur le milieu marin. Le problème c'est que c'est très difficile de suivre les saumons en mer précisément, c'est très coûteux. Donc là il y a des programmes internationaux qui se lancent, on va pouvoir récupérer des données, nous il nous faudrait affiner les recherches. Donc pourquoi pas une thèse, un contrat ingénieur ou un post-doctorat peut-être qui pourra s'ouvrir, mais ça reste à faire.
Et alors, justement, vous, vos observations, comment ça s'est passé?
Alors moi, je n'avais pas d'observation directement sur le terrain. En fait, j'ai eu une thèse qui était basée sur de l'analyse de données, puisqu'on a donc notamment cet observatoire de recherche en environnement sur lequel on a un suivi des populations depuis plus de 25 ans pour des cours d'eau, puisqu'on a des cours d'eau en Normandie, Bretagne et au Pays Basque, qui nous permet d'avoir un peu une couverture de la France. Et on a d'autres jeux de données qui sont disponibles, en fait, qui est la base nationale de déclaration de capture ligne, puisque depuis 87, en fait, tous les pêcheurs doivent déclarer leur capture, nous fournir des indications sur la taille, le poids, le lieu de capture. Et après, à partir de l'analyse des écailles, on est capable un peu de réestimer, en fait, l'âge des poissons en rivière ou en mer. Donc ça nous donne des données. C'est acquis, maintenant il faut les exploiter. Donc moi j'ai eu un premier travail qui consistait à dégrossir un peu tout ce qu'on a pour voir quelles sont les perspectives en fait de recherche les plus intéressantes pour nous. Et aujourd'hui, comme en fait pour toute la communauté internationale, le problème c'est de savoir précisément ce qui se passe en mer. Donc là, il y a des programmes à l'échelle européenne, voire même avec l'Amérique du Nord qui sont en train de se monter pour faire de l'échantillonnage en mer avec des bateaux et tout, mais c'est vraiment le début et il va falloir attendre encore quelques années avant qu'on ait tous les éléments qui nous sont nécessaires.
Et alors justement, au niveau des traitements de données, j'ai vu notamment dans votre résumé de thèse, en fait, que vous parliez de modèles statistiques bayésiens. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est ou comment, du moins, comment ça fonctionne?
Oui, alors les statistiques en général, en fait, c'est arriver à isoler en fait un signal au sein des jeux de données, donc filtrer les bruits et puis voir un peu les tendances. Et l'intérêt en particulier des modèles bayésiens, c'est que ce sont des techniques d'analyse qui nous permettent en fait d'avoir une quantification précise probabilise de l'incertitude sur un certain nombre de paramètres qui nous intéressent, des paramètres vitaux, des paramètres de croissance, ce qui est en fait après très intéressant dans un cadre de gestion pour donner des avis et là quantifier vraiment les risques d'erreur, voir un peu toutes les possibilités qui s'offrent à nous et dire bon voilà, si on veut éviter des problèmes, il faudrait baisser les taux de gestion d'au moins 30% pour être sûr que l'espèce à l'avenir va se maintenir. Ou, Donc c'est une technique d'analyse statistique parmi d'autres, mais qui a ses intérêts vraiment pour de la gestion.
Et sinon, une autre question aussi, donc par rapport au cycle vital du saumon atlantique. On parle de saumons qui font un hiver de mer, deux hivers de mer, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, en fait, suivant un peu ce qui lui arrivait en rivière, mais aussi suivant les conditions marines, en fait, le saumon va passer un an ou deux ans en mer. Donc l'avantage pour lui de passer deux ans, en fait, c'est qu'il va revenir plus gros avec, surtout pour les femelles, en fait, une quantité d'œufs produite qui est beaucoup plus importante. Le problème, c'est que passer deux ans en mer, si les conditions marines en fait sont pas bonnes, c'est risqué pour l'individu puisqu'il risque de mourir. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'a priori, quand les conditions de croissance sont favorables, les individus vont rester en mer pour maximiser, enfin deux ans en mer pour maximiser leur potentiel reproducteur, et qu'un an et revenir se reproduire plus tôt si les conditions sont défavorables et qu'ils risquent de mourir avant reproduction. Parce qu'ensuite, la majorité des saumons, une fois qu'ils se sont reproduits, meurent, n'ont pas trop l'occasion de se reproduire une deuxième fois, même si on observe des cas, mais c'est minoritaire, de reproduction multiple sur un, deux, voire plusieurs années, mais ça reste très marginal.
Et alors, justement, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Pourquoi est-ce que le saumon revient en rivière pour pondre ? Est-ce qu'on a des réponses, en fait, sur le fait qu'il revienne en plus à l'endroit même où il est né, finalement ?
Oui, alors le saumon, en fait, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'il vient se reproduire en rivière, notamment pour maximiser la survie des juvéniles. Parce qu'en milieu marin, les survies en fait, de l'œuf à l'adulte sont vraiment très faibles. Donc là, on a des poissons qui ont des pontes de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'œufs parfois. Alors que l'avantage de se reproduire en rivière pour le saumon, c'est que c'est un milieu qui protège relativement plus les œufs et les juvéniles. Et là, on a pour le saumon des dépôts d'œufs qui sont de l'ordre de 2000 à 4000 œufs. Donc c'est une stratégie qui vise vraiment à maximiser la survie juvénile. Et puis ensuite, on va en mer pour profiter de conditions de croissance qui sont très favorables et ensuite maximiser son potentiel reproducteur avant de revenir. Ensuite, pourquoi se reproduire dans la même rivière ? Bah, l'avantage, en fait, c'est que petit à petit, en fait, les juvéniles vont être sélectionnés par le milieu, donc vont être de plus en plus adaptés à la rivière d'origine. Et donc pour eux, c'est plus intéressant, en fait, petit à petit, de revenir dans ces rivières-là pour maximiser leur potentiel reproducteur également.
Et est-ce qu'on sait comment, finalement, ils retrouvent leur chemin ?
Alors, leur chemin, c'est encore relativement flou, puisqu'ils partent en fait des îles Féroé, donc c'est assez proche du Groenland, c'est plus loin que le Danemark. Donc la première partie, on pense qu'ils sont sensibles en fait au champ magnétique terrestre, donc ça va leur permettre de revenir assez proche de la France, et ensuite c'est vraiment une identification de la rivière qui serait plutôt olfactive, avec une identification de la signature chimique du cours d'eau d'origine. Il serait également possible qu'il y ait une sensibilité en fait à des signatures chimiques, même des individus qui sont présents juvéniles, en fait, qui sont présents dans le cours d'eau, qui les attirent.
On s'accorde une petite pause en musique avec Wine Death et le titre Breath.
I can't.
Nous retrouvons Guillaume Ball dans le labo Matic car nous lui avons demandé si le changement climatique et le réchauffement de l'eau pouvaient avoir un impact sur le cycle vital du saumon atlantique et le fait qu'il revienne dans sa rivière d'origine pour pondre.
En fait, ce qu'on pense généralement, c'est que le saumon revient toujours exactement dans la rivière qu'il a connue. Alors ça, c'est faux. Il y a 90%, peut-être 95% des individus qui reviennent dans la rivière d'origine. Et puis, il y en a une partie qui va revenir un petit peu sur les rivières à côté. Donc, ce qu'on a vu récemment, c'est que les années où il fait particulièrement chaud, a priori, les individus vont avoir tendance à plus ce qu'on appelle divaguer, en fait, partir dans des rivières qui sont un peu plus loin de leur rivière d'origine. Donc peut-être que le changement climatique va changer ça. Alors est-ce que c'est des problèmes d'identification de la rivière d'origine ? On ne sait pas encore, il faut creuser. Le problème qu'on a, c'est que les évolutions climatiques, ça se fait sur du long terme et du suivi précis. On le fait depuis une vingtaine d'années, parfois 10 ans suivant les thématiques, puisqu'il y a des équipements ou des techniques de recherche aujourd'hui qui sont nouvelles et qu'il faut encore exploiter. Donc on n'a pas trop de recul. Ce qu'il apparaît aujourd'hui, c'est que pour des populations qui vont être vraiment très au sud, genre en Espagne ou sur des petits cours d'eau côtiers, en fait, qui ne sont pas influencés par la fonte des neiges, il y a un réchauffement qui va devenir petit à petit, notamment pour certaines petites rivières du Pays Basque, de plus en plus néfastes. Donc on peut penser que là, il va y avoir une souffrance des individus qui vont les pousser à exploiter plutôt des rivières de plus en plus nordiques. En mer, on voit également en fait que ça se dégrade. Alors est-ce que c'est le changement climatique et les effets de la température purement... Et on manque un peu de recul, mais ce qu'on observe déjà, en fait, c'est une réponse des individus qui ont tendance à passer de moins en moins de temps en mer pour éviter des conditions défavorables. Après, on observe aussi des choses un peu bizarres, c'est peut-être pas le terme, mais marginales, qui sont des individus, notamment les mâles, qui restent en fait qu'en rivière, qui vont même se reproduire au stade juvénile en rivière. Donc ça, pour les femelles, c'est pas valable parce qu'il leur faut en fait beaucoup d'énergie pour produire les œufs, donc elles vont continuer à partir en mer. Mais on observe des stratégies comme ça qu'on aimerait essayer de relier au changement climatique, mais ça reste encore à faire.
Et c'est donc justement l'objet de recherches futures, certainement. Est-ce qu'on peut également faire d'autres parallèles, finalement, avec d'autres espèces ?
Le saumon, en fait, nous, c'est un modèle, mais on peut faire des parallèles avec d'autres espèces, qui sont notamment la truite, qui peut aussi partir en mer, qu'on connaît en fait sous le terme de truite de mer, mais c'est une stratégie autre, avec beaucoup de poissons migrateurs, en fait, qui sont des poissons même... De l'océan Pacifique, comme les différentes espèces de saumon pacifique qui peuvent exister. On peut faire des parallèles avec même des poissons d'eau douce qui n'ont pas de cycle marin. Mais nous, c'est vraiment une espèce pour l'instant indicatrice sur laquelle on a un bon suivi et qui va nous permettre d'identifier des choses et après aller plus loin. Mais oui, il y a d'autres choses à creuser avec d'autres espèces aussi.
Et alors, quels sont vos projets d'après-thèse ?
Pour l'instant, une recherche de post-doc à l'étranger pour compléter un peu ce que j'ai fait, améliorer mon anglais, développer mes compétences scientifiques et puis après essayer de trouver un poste dans la recherche en France.
Donc toujours dans la recherche et puis toujours un petit peu sur les mêmes thématiques également ?
Le changement climatique, c'est une thématique aujourd'hui porteuse, ça intéresse de plus en plus de gens, donc oui, j'aimerais bien rester dans ces thématiques-là. Et puis, tout ce qui est en fait gestion de stock exploité. Voilà.
Pour en savoir plus sur l'UMR INRA Agro Campus Ouest, écologie et santé des écosystèmes, vous pouvez consulter le site internet www.rennes.inra.fr, de même pour l'école doctorale Vie Agro-Santé sur le www.vas.univ-rennes.fr. Et tout de suite, le retour de l'actualité scientifique dans le labo Matic. Et on fait un point sur le Festival des sciences et la fête de la science à ne pas manquer en octobre. Lab, 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 lab. Du 7 au 16 octobre, c'est à la fois la fête de la science et le festival des sciences à Rennes. Et pour cette 6e édition, ce sont près de 100 manifestations qui vous seront proposées, réparties sur 26 communes. C'est l'occasion de rencontrer les acteurs de la recherche à Rennes pour savoir et surtout comprendre ce qu'il se passe dans les laboratoires rennais. Et le festival s'ouvre le vendredi 7 octobre avec la nuit du festival au Champ Libre, avec notamment un accès gratuit aux expositions. Une soirée ciné au TNB vous sera également proposée le dimanche 9 octobre avec la projection du documentaire Bonobo, suivi d'une rencontre avec le réalisateur Alain Tixier. Ce sera peut-être l'occasion pour vous de lui poser directement vos questions. Et puis bien sûr, le Village des Sciences sur l'esplanade Charles de Gaulle les 15 et 16 octobre. Une véritable rencontre également avec les chercheurs autour de 44 stands dédiés entre autres à la chimie, aux mathématiques, à la police scientifique ou encore au laser. Et sur ces mêmes dates un peu plus loin, au CRIJ et au Champ Libre, vous pourrez découvrir des projections de films scientifiques. Un beau programme pour alimenter ses connaissances. C'est la fin de cette émission. Je vous annonce que vous retrouverez le Labomatique la semaine prochaine, mais avec une nouvelle voix. C'était ma dernière émission aujourd'hui sur Radio Campus. J'en profite pour remercier encore une fois les invités qui nous font toujours partager avec beaucoup de générosité leurs connaissances et leurs savoirs. Et je vous remercie, chers auditeurs, d'être fidèles au Labomatique. Très bonne journée à tous sur Radio Campus Rennes 88.4.
Love them.